Une étudiante de 18 ans est rentrée chez elle pendant les vacances semestrielles, mais a disparu peu après sans laisser de traces. Sa mère a alors reçu des messages étranges, ce qui l'a poussée à contacter la police. Les résultats de l'enquête ont ébranlé toute la famille et personne n'était préparé à cette vérité. Angelica Hudson est née le 9 août 1996 dans une banlieue tranquille de Norfolk. Peu après sa naissance, la famille s'est agrandie avec deux sœurs cadettes. Mais en 2005, ses parents se sont séparés et toutes les filles sont restées avec leur mère. 5 ans plus tard, sa mère s'est remariée et Angelica a eu une autre sœur cadette. Ainsi, elle avait 3 sœurs cadettes et elle s'occupait de chacune d'elles avec soin et attention. Après avoir terminé ses études dans sa ville natale, Angelica est allée à l'université de Fars, située à environ 3 heures de voiture de chez elle. Elle était active dans 2 équipes sportives de l'université et prévoyait d'accélérer ses études pour terminer 1 an plus tôt que prévu. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouvait toujours le temps de retourner à Norfolk et de passer du temps avec sa famille, en rendant visite à 16 parents et 16 sœurs. En mars 2015, alors qu'Angelica avait 18 ans, elle a décidé de passer les vacances de printemps chez ses parents. Pendant quelques jours, elle a profité du temps passé avec sa famille et s'est réjouie de l'atmosphère chaleureuse de la maison. Le matin du 2 mars, sa mère s'est consacrée à ses tâches matinales habituelles, préparant les jeunes filles pour l'école, et est partie travailler, laissant Angelica seule à la maison. Quand la mère est revenue du travail, Angelica avait soudainement disparu. Tout semblait indiquer qu'elle était partie précipitamment. La porte arrière n'était pas fermée. Sa musique préférée jouait dans les haut-parleurs et ses affaires personnelles étaient partiellement et hâtivement rassemblées. Cela a paru étrange à sa mère, car elle partageait habituellement leurs plans. Ce jour-là, cependant, Angelica n'a envoyé aucun message, ce qui a provoqué une certaine inquiétude. La mère d'Angelica a décidé d'écrire à sa fille pour savoir où elle se trouvait. Angelica a répondu qu'elle était sortie avec des amis, mais n'a donné aucun détail sur l'endroit ou l'heure de son retour. Au cours de l'échange de messages, la mère a remarqué que le style d'écriture d'Angelica avait changé. Normalement, Angelica écrivait avec enthousiasme et précision, mais cette fois, ses réponses étaient courtes et floues. Cependant, cela n'a pas inquiété la mère, car Angelica avait 18 ans et elle supposait que sa fille voulait simplement un peu d'espace. Ce jour-là, Angelica n'est pas rentrée à la maison et continuait à répondre aux messages, mais sans donner de précision sur son lieu ou ses plans de retour. Le soir du 3 mars, la mère d'Angelica était inquiète, car sa fille ne répondait pas aux appels. Elle essaya de joindre les amis de sa fille, mais eux non plus ne purent entrer en contact et ne savaient pas où elle se trouvait. Les inquiétudes grandissaient et la mère se tourna vers la police. Les enquêteurs supposèrent d'abord qu'Angelica avait pu partir volontairement car une note inhabituelle avait été trouvée dans sa chambre. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour être seule avec ses pensées. Cette note dérouta la famille car Angelica était toujours pleine d'énergie, se consacrait à ses études et faisait de grands projets pour son avenir. Angelica se plaignait rarement de problèmes sérieux dans sa vie, donc la note inattendue qu'elle avait laissée soulevait beaucoup de questions. Tous ses effets personnels étaient restés chez elle, vêtements, portefeuille et voiture. Cela contredisait l'idée qu'elle soit partie volontairement. Cependant, il n'y avait aucune preuve pour prouver le contraire. Le tournant de l'enquête survint quelques jours après sa disparition. Son voisin Cody, qui habitait à proximité, trouva un fragment de la carte de crédit d'Angelica près de sa maison. Après en avoir informé la police, il fut désigné comme principal suspect. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il pouvait être impliqué dans sa disparition et l'interrogèrent pendant plus de 12 heures. Lors de cet interrogatoire, Cody nia catégoriquement toute connexion avec la disparition, mais la police n'était pas prête à le disculper, et les proches d'Angelica étaient convaincus de son implication. Alors que la nouvelle se répandait dans la région, de nombreux habitants se joignirent à la recherche en formant des groupes pour explorer les environs à la recherche d'indices. La situation se compliqua lorsqu'il fut révélé que Cody et Angelica étaient allés à la même école et étaient même sortis ensemble. Cela renforça les soupçons, et peu de temps après, un incident se produisit, qui confirma encore plus ses suppositions. Moins d'une semaine après le début de la recherche, Wesley Hudson, le beau-père d'Angelica, se rendit à l'improviste chez Cody et y trouva un vêtement d'Angelica. Il appela immédiatement les amis de sa fille, pensant qu'il pourrait y avoir d'autres affaires à elle dans la maison. Son action renforça les soupçons de nombreux habitants, qui croyaient que Cody était impliqué dans la disparition d'Angelica. Quand les amis arrivèrent chez Cody, ils découvrirent un manteau, qui les incita immédiatement à appeler la police. Les enquêteurs l'interrogèrent de nouveau et lui posèrent des questions précises, pour obtenir plus de clarté. Cody affirma qu'il n'avait aucune idée de la façon dont le manteau était arrivé chez lui, ce qui inquiéta davantage les enquêteurs. La présence du manteau était un indice crucial, mais son argumentation convaincante fit croire à la police qu'il ne mentait pas. Il proposa de donner volontairement des échantillons d'ADN et de passer le test du détecteur de mensonges pour montrer sa volonté de coopérer. De plus, Cody fournit un alibi pour le moment de la disparition, qui, après vérification, fut jugé crédible. Les enquêteurs décidèrent de parler aux amis de Cody, qui avaient trouvé le manteau, et apprirent d'eux que le beau-père de la jeune fille leur avait donné le tuyau. Les informations recueillies poussèrent les enquêteurs à soupçonner que le manteau avait pu être placé intentionnellement. Il y avait toujours la question, ce qui motivait Wesley. Il y avait des suppositions qu'il était peut-être lié à la disparition de la femme avec laquelle il avait une relation, en connexion. Lors des enquêtes, la police a examiné son passé de près et a constaté que Wesley avait été accusé plusieurs fois de divers délits, plus de 10 fois. Beaucoup des accusations n'ont pas pu être prouvées, mais il a souvent été arrêté pour des petits vols et la possession illégale de certaines substances. En 2005, il a été découvert qu'il aurait prétendument privé sa femme de sa liberté pendant quelques jours, mais il n'y avait pas de preuves concluantes de sa culpabilité et il n'a pas reçu de peine sévère. Dans sa vie, Wesley a souvent été en prison et tout son temps passé là-bas se mesurait en années. Après que les enquêteurs ont étudié les documents de l'affaire, ils ont découvert que quelques semaines avant la disparition d'Angelica, sa mère avait expulsé Wesley de la maison à cause de son obsession pour diverses substances. Depuis lors, il vivait dans un hôtel. Toutes ces circonstances faisaient de lui un suspect sérieux. Lors de l'interrogatoire, l'homme a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de sa fille et au contraire avait tout fait pour la retrouver. On lui a demandé, quand il avait vu Angelica pour la dernière fois, Wesley a raconté qu'il l'avait vue le jour de sa disparition vers midi à la station-service. Wesley a informé à ses collègues qu'il devait quitter le travail pour quelques heures afin d'aider sa fille dans des affaires financières. Il est revenu vers le milieu de la journée et semblait perturbé. Ce jour-là, les enquêteurs ont vérifié les enregistrements des caméras de la station-service, où Wesley était censé avoir été vu, mais ses déclarations n'ont pas pu être confirmées. Il a dit qu'il avait rencontré par hasard Angelica à la station-service, alors qu'il passait. Cette déclaration soulevait des questions, puisque la voiture d'Angelica était garée chez elle, et il n'était pas clair pourquoi elle devrait aller à la station-service. Wesley a également justifié son absence au travail par la nécessité de vérifier son système d'alarme après avoir reçu une notification sur son téléphone, mais la police n'a pas pu confirmer cela. Ces détails contredisaient son histoire. Les collègues ont confirmé que Wesley avait effectivement quitté son lieu de travail pour rencontrer sa fille, qui lui avait demandé quelques centaines de dollars. Après leur rencontre, ils ont pris des chemins séparés. Mais les incohérences dans ses déclarations et le manque de preuves de la rencontre à la station-service ont laissé de nombreuses questions aux enquêteurs. Après avoir reçu un mandat de perquisition, Ils sont entrés dans la chambre d'hôtel où Wesley vivait depuis les dernières semaines. À l'intérieur, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Par exemple, il stockait des armes à feu et beaucoup de munitions. En raison de son passé, il lui était légalement interdit de posséder des armes, ce qui a conduit à son arrestation. Cependant, aucune trace n'a été trouvée dans la chambre, liée à la disparition de sa fille Angelica. Finalement, Wesley a été accusé de possession illégale d'armes, d'entrée par effraction et d'obstruction à la justice. Malgré les accusations, Wesley a continué de souligner qu'il n'était pas responsable de la disparition d'Angelica et il la cherchait activement. Finalement, le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison. Entre-temps, les enquêteurs ont poursuivi la recherche de la jeune femme disparue. Le véhicule de Wesley a été saisi pour examen et on y a trouvé une pelle, du ruban adhésif et des gants noirs. Le système de navigation installé dans le véhicule a suscité un intérêt particulier et a été envoyé à des spécialistes pour une analyse approfondie. Les enquêteurs ont analysé les données pour retracer l'itinéraire de Wesley dans les jours suivant la disparition d'Angelica. Il s'est avéré que le 4 mars, il a conduit à une ville située à 90 km de Norfolk. Son véhicule était stationné pendant 20 minutes dans une rue, avant que Wesley ne retourne au travail. Le 9 avril, les enquêteurs ont visité ce lieu et ont découvert que le véhicule était garé dans un bâtiment abandonné dans une zone isolée. Lors de l'examen des environs, ils ont remarqué un objet dans un fossé près de la maison. À l'examen plus attentif, il s'est avéré que c'était un morceau de contreplaqué couvrant quelque chose d'important. Ce lieu, envahi par une végétation dense et difficile d'accès, n'attirait pas les passants occasionnels. Après une enquête approfondie, ils ont trouvé sous le contreplaqué ce qu'ils cherchaient, malheureusement la personne disparue. Ce qui a été trouvé a été envoyé pour analyse, et peu après, les enquêteurs ont reçu des données inattendues, qui sont devenues un tournant dans l'affaire. Les tests sanguins ont révélé de façon inattendue qu'Angelica avait 3 fois plus de certaines substances dans le corps que CE qui est considéré comme sûr. Sa famille était choquée, car Angelica menait toujours un style de vie sain, faisait du sport et se concentrait sur son éducation. Personne ne pensait qu'elle avait été en contact avec ces substances. Les experts médicaux ont insisté pour plus de tests et ont décidé d'analyser ses cheveux pour déterminer si elle avait été en contact auparavant avec ces substances. L'analyse a montré qu'Angelica n'avait jamais été en contact auparavant. Cela rendait improbable qu'elle ait volontairement consommé une telle quantité. De plus, le lieu où Angelica a été trouvée a suscité des soupçons. Quelqu'un l'avait cachée dans un endroit isolé et couverte avec du matériel de construction pour faire croire à un accident. La police a réinterrogé Wesley, qui était déjà en détention. Ils lui ont d'abord demandé comment sa voiture de service s'était retrouvée près de la maison où Angelica a été trouvée. Les réponses de Wesley ont éveillé des doutes chez les enquêteurs. Il a prétendu que quelqu'un aurait pu utiliser sa voiture sans son savoir, bien qu'il ait précédemment affirmé que personne d'autre que lui n'avait accès au véhicule. Wesley suspectait que quelqu'un pourrait prendre l'appareil de navigation de sa voiture, conduire à la maison mentionnée et ramener l'appareil. En même temps, la police analysait les enregistrements des caméras de circulation sur la route vers cette maison. Ils ont pu sécuriser plusieurs images qui confirmaient que Wesley était effectivement en ville ces jours-là avec sa voiture de service. Bien que toutes les preuves indiquaient que l'homme était impliqué dans le crime, le tribunal avait besoin de plus de preuves pour l'inculper. Les enquêteurs ont travaillé sur l'affaire pendant plusieurs années, déterminés à trouver des preuves concrètes. Finalement, à la fin de 2018, Wesley a été accusé du crime contre Angelica. Le procès a commencé en janvier 2022. Selon l'accusation, Wesley est arrivé à la maison où vivait Angelica l'après-midi du 2 mars. Selon l'enquête, il l'a prise et a ensuite essayé de le faire passer pour un accident en lui administrant une surdose de substances dangereuses. Lors de nombreux interrogatoires, les enquêteurs ont remarqué Comment l'homme formulait prudemment ses réponses, pour éviter tout soupçon? Au procès, l'accusation a présenté des témoignages, qui soutenaient leur version des faits. Ils ont accusé un homme d'avoir vendu une substance qui a conduit à la tragédie avec Angelica. Pendant l'enquête, la police a trouvé le téléphone d'Angelica dans la rue. Les données de localisation de son appareil ont été synchronisées avec les informations du téléphone de Wesley. Depuis sa disparition, les deux téléphones ont été enregistrés aux mêmes endroits, y compris les moments où des messages ont été envoyés au nom d'Angelica à sa mère. Cela suggérait que Wesley avait pris le téléphone de la jeune fille et avait essayé de faire croire à sa mère que tout allait bien avec sa fille. Les défenseurs de l'accusé ont insisté sur son innocence et ont soutenu qu'Angelica aurait pu disparaître volontairement en raison de sa dépression et que Wesley n'avait rien à voir. Cependant, cette version n'expliquait pas pourquoi la voiture de Wesley était près du lieu où l'objet recherché a été trouvé plus tard, couvert d'une plaque de contreplaqué. Tous les arguments présentés tentaient d'expliquer l'incident comme un hasard ou une tentative de diffamer Wesley. Il avait répété à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas au simple hasard et était convaincu qu'il s'agissait d'un crime. Cependant, il changea soudainement d'avis devant le tribunal. Les jurés ont eu besoin de moins d'une heure pour rendre un verdict. Wesley a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison à vie. Il a annoncé qu'il ferait appel du jugement et a théoriquement de bonnes chances de révision de l'affaire. Car, comme vous le comprenez, aucune preuve directe de son implication n'a été trouvée. Par exemple, aucune trace biologique de lui n'a été découverte sur le lieu du crime, ce qui aurait pu servir d'argument important pour l'accusation. Cependant, l'argument principal était que la voiture de service de Wesley a été vue près du lieu du crime. Les autres preuves présentées n'étaient pas aussi convaincantes. Le passé de Wesley soulève cependant des questions, car il y a 10 ans, il était déjà impliqué dans un scandale avec sa femme, ce qui semble également suspect. Et bien que les arguments de l'accusation soient convaincants, l'absence de preuves plus concluantes permet à la défense de demander une révision du verdict et un nouveau procès. La fille parcourut quelques mètres à peine du bus scolaire jusqu'à sa maison, et il sembla, alors, qu'elle s'était simplement évaporée. Sa disparition attira rapidement l'attention de toute la ville, car au cours de l'enquête, de nouveaux détails étonnants ne cessaient de faire surface. Pendant de nombreuses années, les enquêteurs décryptèrent avec une immense persévérance et un dévouement sans faille la séquence mystérieuse des événements, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité choquante. Angie Guzman naquit le 18 février 1984 à Saint-Louis, dans le Missouri. Son père quitta la famille avant sa naissance, et elle ne l'a jamais vue. Lorsqu'elle eut 1 an, sa mère épousa Ronald, qui devint un vrai père pour Angie, et bientôt un fils naquit. Angie s'entendait toujours bien avec son beau-père et son jeune frère, était une enfant paisible, et essayait d'être amie avec tous ceux qui l'entouraient. La famille vivait dans un quartier résidentiel calme de Saint-Louis, où chacun prenait soin de ses voisins. En 1993, Angie, âgée de 9 ans, fréquentait la 4e classe d'une école primaire locale, située à quelques centaines de mètres de sa maison. Elle prenait le bus scolaire, dont l'arrêt se trouvait près de sa maison, et les voisins bienveillants gardaient toujours un œil sur les enfants lorsqu'ils rentraient chez eux. C'était une tradition locale pour s'assurer que les enfants allaient bien. Le 18 novembre, Angie partit comme d'habitude à l'école et devait revenir à la maison à 3 heures de l'après-midi. Elle monta dans le bus scolaire et atteignit son arrêt avec d'autres enfants du voisinage, puis ils rentrèrent ensemble. Lorsque tous les autres enfants furent rentrés chez eux, Angie se retrouva seule. Il ne lui restait plus que quelques minutes à marcher. Mais le temps passa, et Angie ne rentra pas à la maison. Après que le bus ait déposé les enfants et environ 30 minutes se soient écoulées, les parents ont commencé à s'inquiéter. Normalement, Angie traînait un peu pour parler avec des amis, mais cette fois-ci, son retard était inhabituellement long. La mère et le beau-père d'Angie ont décidé de vérifier le chemin de l'arrêt de bus à leur maison. Ils ont parlé à d'autres élèves, qui ont confirmé que la fille était arrivée avec eux et avait pris le chemin de la maison. Les parents étaient de plus en plus inquiets. Ils se sont tournés vers les voisins, qui surveillaient généralement les enfants, mais cette fois-ci, les femmes étaient occupées et n'avaient rien remarqué d'inhabituel. D'autres parents, dont les maisons se trouvaient le long de la route, avaient également vu Angie rentrer chez elle. La famille et les amis ont commencé à fouiller minutieusement la zone le long du parcours. À la tombée de la nuit, les parents ont décidé de demander l'aide de la police. Les enquêteurs se sont immédiatement joints à la recherche. Vu la fraîcheur du temps, il était peu probable qu'Angie soit partie seule. La police a envisagé plusieurs possibilités, car seulement 10 jours auparavant, un incident similaire était survenu dans le district voisin impliquant une autre fille, qui heureusement s'était bien terminée, mais avait suscité de graves inquiétudes. Fin mars 2022, lorsqu'une jeune femme venait de descendre du bus scolaire, un inconnu avait tenté de l'emmener. Malgré la menace, elle a réussi à échapper à la capture. Cet incident a poussé les forces de l'ordre à envisager un lien possible entre cet événement et la disparition d'une fille nommée Angie. Des chiens de recherche ont été utilisés pour la retrouver, et ils ont détecté une piste à l'arrêt de bus, la suivant jusqu'à un point, où la trace s'est soudainement arrêtée, ce qui pourrait indiquer qu'Angie avait été emmenée en voiture. Malgré l'utilisation d'hélicoptères équipés de caméras thermiques pour inspecter la région le premier jour de la recherche, aucune trace de la fillette n'a été trouvée. Le lendemain matin, la police s'est adressée aux médias locaux et la nouvelle de la disparition s'est rapidement répandue. Ce jour-là seulement, plus de 300 appels ont été reçus, nécessitant le déploiement de plus de 20 agents supplémentaires pour traiter les informations reçues. L'enquête s'est également étendue au beau-père d'Angie, qui a nié toute implication et a proposé de se soumettre à tout contrôle nécessaire pour prouver son innocence. Le comportement du père biologique de la fillette, qui n'avait pas de contact avec elle et était surveillé de loin, a également attiré l'attention de la police et a apporté un nouveau rebondissement à l'enquête, augmentant l'intérêt pour sa personne dans le contexte de l'enquête en cours. La police a intensifié ses efforts pour enquêter sur la disparition d'Angie en mars, après qu'un résident ait été observé roulant lentement dans un sedan bleu dans le quartier. Cette personne avait été vue 10 jours avant la disparition dans des circonstances suspectes. Malgré ses affirmations d'avoir un alibi la veille de l'incident, le FBI et les autorités locales ont réalisé un portrait robot de lui et l'ont distribué aux habitants. La distribution de milliers de tracts et la couverture médiatique nationale n'ont pas permis d'identifier cet homme. Cela a attiré l'attention du public et généré de nombreux indices, qui n'ont cependant pas aidé la police à se rapprocher d'une solution. L'enseignante d'Angie a raconté qu'avant sa disparition, elle avait parlé d'un futur voyage dans la nature avec son oncle. En attendant, l'intérêt public croissant a attiré les voyants, qui ont commencé à partager leur vision par téléphone depuis la maison d'Angie. L'un d'eux a affirmé qu'elle était en vie et se cachait dans un parc national, à 40 km de chez elle, cherchant refuge. Les enquêteurs, cependant, se sont concentrés sur des pistes plus tangibles et ont ignoré ces affirmations. Dans l'espoir d'accélérer le processus, une récompense de $10 000 a été offerte pour toute information concernant l'endroit où se trouvait Angie, ce qui a mené à encore plus de pistes. Il était étrange que ses parents n'aient aucune connaissance d'un voyage prétendument prévu, qu'elle avait mentionné. On supposait qu'Angie connaissait quelqu'un qui l'avait emmenée. 9 jours après sa disparition, un chasseur a fait une découverte troublante dans la forêt du parc national et a immédiatement informé la police. Sur place, des traces d'un abri improvisé ont été trouvées, à côté duquel se trouvaient des effets personnels, dont un carnet avec le nom de la jeune femme. Cet événement a suscité une attention publique et médiatique considérable. Angie a été retrouvée dans un état qui a suscité de vives inquiétudes quant à son bien-être, confirmant la gravité de sa situation. La police a également trouvé des preuves que la jeune femme avait récemment séjourné dans l'abri. Les empreintes digitales sur les objets de l'abri donnaient de l'espoir pour une résolution rapide de l'affaire. L'état des objets trouvés a conduit les experts à conclure qu'Angie se trouvait dans l'abri jusqu'aux dernières heures avant sa découverte. Fin mars 2022, après des tentatives infructueuses de lier la disparition à d'autres cas similaires dans les bases de données, la police a redoublé d'efforts pour enquêter après une découverte dans l'une des maisons. Les habitants de la ville sont devenus plus prudents et ont commencé à surveiller leurs enfants de plus près. Quelques jours après le début de l'enquête, l'inquiétude publique s'est intensifiée. Début décembre, une jeune fille nommée Casey a disparu dans une ville située à 16 km du lieu du premier signalement. Casey se rendait chez ses amis, qui habitaient à quelques centaines de mètres de chez elle, mais elle n'est jamais arrivée là-bas. 10 jours plus tard, Casey a été retrouvée à Saint-Louis. Elle était recouverte d'un rideau rose, mais les détails de ce qui s'était passé restaient flous. Malgré une recherche intensive d'indices, la police n'a pas pu tirer de conclusions claires sur le lien de cette affaire avec d'autres incidents dans la ville. Ce même mois, la police a arrêté une personne qui tentait de déranger une autre jeune femme quelques jours seulement avant la disparition de Casey. Au début, on pensait que c'était la même personne, mais les différences dans les circonstances laissaient entrevoir la possibilité que CS Crime ait été commis par différentes personnes. Fin mars 2022, Gary, un homme de 37 ans, se rendait souvent à Saint-Louis pour affaires. Dans le cadre de l'enquête sur les deux disparitions, les enquêteurs l'ont considéré comme un suspect potentiel, mais il avait un alibi solide, car il n'était pas en ville au moment des faits. Cependant, au cours de l'enquête, il s'est avéré que Gary avait eu un comportement inapproprié envers 4 autres personnes, ce qui a finalement conduit à sa condamnation à 5 ans de prison. En février de l'année suivante, la police a fait une nouvelle découverte. Ils ont retrouvé les restes de Casey. À proximité, on a trouvé des traces de véhicules, que les experts ont plus tard attribuées à un pick-up, fréquemment utilisé par une société de location. Les enquêteurs ont commencé à interroger les habitants du quartier où le pick-up a été trouvé pour recueillir des informations. Une femme a signalé qu'elle avait vu un véhicule similaire près de la maison de ses voisins. Environ une semaine après la disparition, la police s'est rendue dans cette maison. La femme qui y vivait, avec son partenaire et son frère, a affirmé qu'aucun d'entre eux n'avait loué un tel pick-up et qu'ils n'étaient pas impliqués. Cependant, la police ne croyait pas ses paroles, a obtenu un mandat de perquisition et a découvert lors de la fouille au sous-sol des preuves liant Casey à l'affaire, ainsi que des objets liés au dossier. D'autres enquêtes ont révélé que le frère avait loué le pick-up, suite à quoi il a été arrêté. Au début, il a tout nié, mais après avoir été confronté à des preuves solides, l'homme a avoué ses actes. Il a expliqué que Casey était venue d'elle-même le voir, pour inviter son neveu à faire une promenade. Dans la maison, il a suggéré de descendre au sous-sol, où il a tenté de faire quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube, mais elle a crié. Pris de panique, il l'a accidentellement poussée, et elle est tombée d'une manière malheureuse, après quoi il l'a couverte de draps. Thomas est allé travailler, et à son retour, il a appris de sa sœur qu'elle avait vu quelque chose d'inquiétant dans son sous-sol. Elle lui a demandé de tout éliminer rapidement, sans vouloir connaître les détails. Elle est restée une semaine dans le sous-sol, car la ville recherchait intensément la fille disparue, et Thomas avait peur de la transporter. Dès que la situation s'est calmée, il a loué un camion, l'a emmenée à Saint-Louis et l'a laissée là-bas. Finalement, l'homme a reçu la peine la plus sévère possible, mais il est mort quelques années plus tard en prison d'une maladie. Dans l'affaire Angie, il a nié toute culpabilité, et les enquêteurs ont conclu que les crimes n'étaient pas liés. Les enquêtes ont stagné pendant des mois. La police continuait de recevoir des indices, bien que leur nombre diminuait. Des années après le meurtre d'Angie, alors que le délai pour l'offre de récompense financière expirait. Les enquêteurs craignaient une diminution du soutien public. Mais alors, un rebondissement inattendu est survenu. Un entrepreneur local a fait don de 250 000 dollars comme récompense pour des informations sur l'affaire Angie, ce qui était à ce moment-là l'un des montants les plus significatifs. Et effectivement, les enquêteurs ont commencé à recevoir plus d'informations. Jusqu'à l'année 2001, toutes les pistes menaient à une impasse. Mais la situation changea brusquement, lorsqu'un appel inattendu fut reçu d'un établissement pénitentiaire. Le prisonnier Corey Fox prétendit qu'il avait été impliqué dans une série de disparitions, y compris celle d'Angie Guzman. Les enquêteurs se rendirent immédiatement sur place, pour en savoir plus sur les détails. Fox affirma qu'il et un complice avaient attiré Angie dans un bâtiment abandonné, pour se cacher. À l'origine, les criminels prévoyaient de demander une rançon, mais ont ensuite décidé, par peur d'être découverts, d'éliminer toutes les preuves. Il décrivit tout ce qui s'était passé, jusqu'au moindre détail. Cependant, son récit contenait des contradictions. Par exemple, Fox mentionna des liens en plastique, alors que des liens en métal avaient été utilisés. 16 aveux concernant d'autres crimes qu'il n'aurait pas pu physiquement commettre ont suscité plus de doutes. Cela a conduit la police à soupçonner qu'il pourrait s'appuyer sur des informations issues des nouvelles. À l'été 2002, l'affaire a de nouveau attiré l'attention lorsqu'une jeune femme disparut dans un autre quartier de Saint-Louis. Au début, on pensait que c'était le même auteur, mais il s'est vite avéré qu'il s'agissait d'un autre criminel qui fut arrêté ce même jour. Après plusieurs années, les enquêteurs ont décidé en 2007 de rouvrir un vieux dossier. En examinant les documents, ils ont remarqué un fait intéressant. Près du lieu de la découverte se trouvait la voiture de Roger Martin. Roger prétendait qu'il était venu pour chasser, mais il n'avait aucun équipement pour cela. La nouvelle équipe d'enquêteurs a décidé de porter une attention particulière à cet homme. Après avoir vérifié son passé, il s'est avéré que Roger avait déjà agi de manière illégale. De plus, quelques années avant la découverte, Roger avait été impliqué dans un incident désagréable près du lieu de découverte. Cette information était enregistrée dans la base de données, mais à l'époque, la police ne l'avait pas sérieusement suspecté. Pour rectifier cela, les enquêteurs ont invité Roger à un interrogatoire de 9 heures. Malgré tous les efforts, ils n'ont pas pu obtenir de confession ou d'informations utiles de sa part. Après l'interrogatoire, ils ont comparé ses empreintes digitales avec celles trouvées auparavant, mais ont constaté qu'elles ne correspondaient pas. Roger a insisté sur son innocence et a affirmé qu'il était au travail au moment de l'incident, mais la police n'a pas pu confirmer son alibi. Malgré l'absence de preuves directes de sa culpabilité, les enquêteurs l'ont toujours considéré comme un suspect possible dans cette affaire mystérieuse. Après une longue période de stagnation des enquêtes, l'administration de Saint-Louis a fondé en 2020 un groupe de travail spécial pour se consacrer à nouveau à cette affaire compliquée. De nouveaux enquêteurs étaient prêts à examiner en détail toutes les preuves recueillies depuis 1993. Le progrès technologique offrait un espoir de percée. 3 pièces clés de preuve comprenaient des menottes, du ruban adhésif et un vêtement, placé dans la bouche d'Angie. Des experts avaient tenté en vain de trouver des traces de matériel génétique de l'agresseur sur ceci. Malgré les échecs précédents, les enquêteurs ont décidé de réexaminer tous les matériaux avec la technologie moderne. D'abord, ils se sont concentrés sur les menottes, mais un examen approfondi a révélé que toute la surface est... Par conséquent, l'espoir d'une analyse ADN de cette pièce à conviction s'est rapidement dissipé. Ensuite, l'équipe s'est tournée vers le ruban adhésif, mais en ouvrant la boîte contenant la preuve, ils ont découvert que le ruban s'était complètement désintégré au fil des ans. La dernière pièce à conviction était les sous-vêtements. Toute l'équipe savait que c'était leur dernier espoir. Malgré le contact évident du coupable avec cette preuve, le contact prolongé avec Angie aurait pu effacer toutes les traces. Néanmoins, les experts ont décidé d'appliquer les méthodes d'analyse les plus modernes et d'examiner chaque millimètre du tissu. Et soudain, ils ont trouvé un petit fragment d'ADN d'origine inconnue, suffisant pour l'analyse et apportant enfin la percée tant attendue dans cette affaire. Les professionnels ont déterminé que l'échantillon d'ADN trouvé appartenait à un homme et l'ont immédiatement inséré dans la base de données du FBI. Souvent, les criminels ne sont pas trouvés dans cette base de données, donc des efforts considérables sont nécessaires pour identifier leur identité. Cette fois, cependant, les enquêteurs ont eu de la chance. La correspondance a été trouvée immédiatement. C'était Earl Cox, qui avait 58 ans, lorsqu'il est entré en prison en 2003. Auparavant, il n'avait pas été lié à l'affaire Angie, mais il avait un passé criminel. Earl a été condamné pour la première fois en 1982, lorsqu'il servait dans l'armée en Allemagne et travaillait comme babysitter. Tout allait bien, jusqu'à ce que quelques filles aient dit à leurs parents que quelque chose d'indésirable s'était produit. Earl a été condamné à 8 ans de prison et renvoyé de l'armée. Il a passé 3 ans en prison et a été libéré sous condition, après quoi il a déménagé à Saint-Louis. 4 ans plus tard, il a été arrêté pour de nouvelles accusations, mais en raison de preuves insuffisantes, les charges ont été abandonnées et il n'a pas été puni. Cependant, son arrestation a violé ses conditions de libération conditionnelle. Il a donc dû passer une autre année en prison. Après sa libération, Earl est retourné à Saint-Louis auprès de ses parents. On suppose qu'un an plus tard, il pourrait avoir été impliqué dans un incident avec Angie, mais les détails restent flous. En 2002, il a été de nouveau arrêté. Il s'est avéré que Earl avait organisé un réseau pour l'échange de matériaux inappropriés, que je ne peux pas mentionner sur YouTube, mais son histoire laisse deviner de quoi il s'agit. Earl a été arrêté en 2003 lors d'une opération du FBI qui a duré plusieurs mois. Un enquêteur sous couverture a créé un compte anonyme et s'est fait passer pour une femme de 14 ans. Earl lui a envoyé de l'argent pour qu'elle voyage dans sa ville, mais quand il est arrivé au lieu convenu, des enquêteurs armés l'attendaient et l'ont arrêté. Lors de la fouille de sa maison, 45 000 photos inappropriées et des preuves de son rôle dans un portail en ligne problématique ont été découvertes. Grâce à ces preuves, 60 autres personnes impliquées dans les activités de ce portail ont été arrêtées, faisant de cette opération l'une des plus grandes du pays. Earl a été condamné à 10 ans de prison, mais à l'expiration de sa peine, le tribunal a prolongé sa détention, le considérant comme un danger potentiel pour la société. En l'an 2019, son ADN a été relié à une autre ancienne affaire, ce qui a conduit les enquêteurs aux portes de sa prison. Earl a refusé de leur parler, demandant un avocat. La police, reconnaissant la gravité des preuves, a proposé à l'avocat d'Earl un accord, un aveu de culpabilité en échange d'une peine plus clémente, la réclusion à perpétuité plutôt que la peine ultime. Après avoir réalisé que son affaire pourrait ne pas réussir, Earl a décidé de conclure un accord avec les autorités. Lorsqu'ils lui ont rendu visite à nouveau en prison, il a raconté sa version des faits. Certains points de son histoire semblaient douteux, mais la police cherchait un aveu. Earl a raconté qu'il conduisait dans le quartier où vivaient sa mère et sa sœur le 18 novembre 1993, lorsque sa voiture s'est soudainement arrêtée. En cherchant la cause de la panne, il a remarqué un bus scolaire, d'où descendaient les élèves. Tous rentraient chez eux, sauf une fille, qui s'est approchée et, selon lui, a commencé une conversation. Croyant qu'elle pourrait avoir froid, Earl lui a proposé de monter dans sa voiture et elle a accepté. Les enquêteurs doutaient de son histoire. D'abord, il était peu probable que la fille accepte de suivre un inconnu, surtout lorsque sa maison n'était qu'à quelques dizaines de mètres. Deuxièmement, les enquêteurs ne croyaient pas que sa voiture était en panne. Bien qu'Earl ait dit que le moteur avait calé, il prétendait également que la voiture avait redémarré dès que la fille s'était approchée. Il l'avait probablement vue et avait décidé de lui parler immédiatement. Earl pourrait l'avoir convaincu de monter dans la voiture par divers prétextes et même des menaces directes. Ce scénario semblait plus plausible que ses propres explications. Cependant, les efforts des enquêteurs ont conduit Earl à admettre sa culpabilité. En août 2012, il a été jugé et condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malheureusement, la mère d'Angie, décédée en 2016 d'une maladie, n'a pas vécu ce moment. Son mari Ronald a déclaré que Earl devrait être tenu responsable des deux pertes, car il estime que la perte de leur fille avait pris la vitalité de sa femme. Quant à Earl, son affaire n'était pas encore terminée. Le procureur a décidé de réexaminer les accusations précédentes concernant un comportement inapproprié pour lesquelles il avait échappé à la punition et en raison d'une violation des conditions de sa libération antérieure, avait passé seulement un an en prison. La police a contacté une des victimes, maintenant adulte, qui a accepté de « témoigner contre Earl ». Cet homme, déjà condamné à perpétuité, a plaidé coupable et a reçu une peine supplémentaire de 10 ans de prison. Après le prononcé du verdict, la victime a déclaré au tribunal qu'elle était déterminée à « vivre heureuse et épanouie » tandis qu'il resterait derrière les barreaux. Le 27 novembre 2002, un incident a eu lieu à Miami, aux États-Unis, qui a attiré une grande attention publique. Le soir, alors qu'ils célébraient l'anniversaire de leur relation, un jeune couple a décidé de faire une promenade. Au cours de leur promenade, ils ont rencontré un groupe d'inconnus. Le couple a été emmené dans une direction inconnue où ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Le jeune homme a pu se libérer de cette situation, mais l'événement a laissé des traces profondes dans sa vie. Anna Maria Angel est née en 1884 à Medellín, en Colombie, sa mère. Margarita Asorio travaillait comme enseignante dans une école locale. En période d'instabilité politique en Colombie, Margarita a décidé de chercher un avenir meilleur pour sa fille à l'étranger. Le déménagement aux États-Unis semblait être la meilleure solution pour la sécurité et l'éducation de sa fille. À l'âge de 6 ans, Anna Maria a déménagé avec sa mère à Miami, en Floride. Bien que Margarita ait une certification d'enseignante, elle a choisi un emploi de femme de ménage qui lui permettait de vivre sans risques inutiles. Au début, l'adaptation au nouveau pays était difficile, mais avec le temps, elles se sont pleinement intégrées dans la communauté locale. Anna Maria est devenue une élève exemplaire et a participé activement à la vie scolaire. Elle a même rejoint la National Honor Society de South Miami High School et est devenue capitaine de l'équipe de football féminin, alliant avec succès sportif et académique. Une jeune femme a réussi à concilier études, sport et un emploi à temps partiel dans un magasin de fourniture de bureau pour aider sa mère avec les dépenses du ménage et économiser de l'argent pour une nouvelle voiture. Après quelques mois, ses efforts ont été récompensés. Elle a acheté une voiture qui lui a apporté une grande joie jusqu'à la fin. Sa vie personnelle était pleine d'événements. Fin décembre 2001, à l'âge de 17 ans, elle a commencé une relation avec Eddie Nelson Partobanco, un camarade de classe. Leur relation s'est développée parfaitement, de nombreux intérêts communs, de bons moments passés ensemble et un respect mutuel. Anna Maria rêvait de rejoindre l'armée de l'air américaine et, après sa carrière militaire, de devenir directrice d'école, inspirée par sa mère. Jusqu'au 27 avril 2002, tout se passait bien. Ce jour-là, ils ont décidé de passer une soirée romantique. Eddie a organisé un dîner dans un restaurant local populaire, où ils ont dégusté de délicieux plats et passé un merveilleux moment. Après le dîner, ils sont allés danser, et la soirée promettait de se terminer parfaitement. Après la danse, ils ont fait une promenade, ont parlé de leurs plans de vie et de leurs rêves, et la soirée était vraiment magique. Le retour à la voiture d'Eddie devait couronner leur journée parfaite. Soudain, les plans changèrent. 5 jeunes personnes, toutes d'origine portoricaine, bloquèrent le chemin du couple. Deux d'entre eux étaient armés et ordonnèrent au couple de monter dans une voiture proche pour les emmener dans un endroit isolé. Comme cette zone était souvent surveillée, les malfaiteurs forcèrent le couple à s'allonger au fond du van loué pour qu'ils ne soient pas remarqués. Ils exigèrent que le couple remette leurs affaires, y compris leur portefeuille, code PN, téléphone portable et bijoux. Avec la carte d'Anna Maria, les criminels retirèrent de l'argent au distributeur le plus proche, puis utilisèrent le téléphone portable d'Eddie pour contacter quelqu'un à Orlando. Cet appel les aida plus tard à retrouver leurs traces. Après environ 20 minutes de route, les malfaiteurs forcèrent Eddie à se rapprocher d'Anna Maria et à l'embrasser, bien qu'il ait d'abord résisté. Sous la pression des circonstances, il dut cependant se plier à leur demande. Ensuite, les criminels lui ordonnèrent de ne pas lever la tête. Eddie écouta l'appel à l'aide pendant 25 minutes. Finalement, ils arrivèrent à une plage complètement isolée. À ce moment-là, les criminels attrapèrent Eddie et le jetèrent sur la route. Pour éviter d'autres actions, Eddie décida de faire semblant d'être mort, espérant qu'ils le laisseraient tranquille et qu'il pourrait appeler à l'aide. Son plan fonctionna, car les criminels pensaient qu'il n'était plus en vie. Ensuite, ils retournèrent à la voiture. Eddie pensait qu'ils avaient laissé sa petite amie sur la plage, mais en réalité, ils partirent avec elle. Un passant remarqua un jeune homme qui marchait lentement vers le bord de la route. Eddie lui raconta son histoire et l'homme l'emmena immédiatement à l'hôpital. Là, les médecins constatèrent de nombreuses égratignures et contusions chez lui. À l'hôpital, Eddie insista pour que la police commence immédiatement à chercher Anna Maria, espérant qu'elle allait bien. Les cinq jeunes continuèrent leur voyage avec Anna Maria dans un van jusqu'au comté de Palm Beach, où ils s'arrêtèrent au bord de la route. Deux d'entre eux forcèrent la jeune fille à sortir du van. Elle leur demanda de la libérer, mais alors qu'elle essayait de le faire, l'un des agresseurs sortit un Colt. Après avoir commis l'acte, ils laissèrent des preuves et retournèrent à Orlando. Tôt le dimanche matin, le 28, la police rencontra Eddie et son père. Le jeune homme informa les agents de tout ce qu'il savait sur l'incident, décrivant les cinq participants et le véhicule dans lequel ils voyageaient. Ces informations aidèrent la police à lancer une recherche extensive à la fois des malfaiteurs et de la jeune fille. Leurs proches essayèrent aussi de la contacter en laissant des messages vocaux lui demandant de revenir. Mais après quelques jours, leurs espoirs ne se réalisèrent pas. Les forces de l'ordre mirent peu de temps à retrouver les criminels. Dans le cadre de l'enquête, un appel a été détecté qui a été passé avec le téléphone portable d'Eddie. Le numéro était lié à une adresse à Orlando, où résidait Hector Manuel Caballé, âgé de 29 ans. Les enquêteurs du FBI ont visité le bureau qui gérait la location de cet appartement pour trouver Hector. Cependant, la gestionnaire de la location a affirmé qu'elle ne connaissait pas une telle personne et a donné des informations sur Victor Manuel Carvalho, âgé de 34 ans, qui était enregistré comme locataire de l'appartement. La femme a remis les clés aux agents et leur a permis d'inspecter l'appartement, où ils ont trouvé Victor avec la carte bancaire d'Anna Maria, son permis de conduire, son portefeuille et son téléphone portable. Les chaussures d'Anna Maria ont été trouvées dans une poubelle près de l'appartement, mais elle-même n'a pas encore été retrouvée. Victor et son frère Hector ont été arrêtés. Les agents se sont ensuite rendus dans un autre complexe résidentiel à la recherche d'une camionnette qui était liée à l'incident. Là, ils ont arrêté César Antonio Mena, âgé de 22 ans, et l'ont emmené au poste. Au même moment, d'autres officiers ont établi les identités d'autres personnes impliquées dans l'incident. Parmi eux se trouvait Jesus Torres Roman, âgé de 16 ans, et son oncle Joël Lebron, âgé de 23 ans, qui ont été arrêtés le 29 avril vers 1h du matin dans un autre quartier résidentiel. Lors de la fouille de Joël, la police a trouvé un sac de sport et un sac de course, qui ont été saisis pour des investigations supplémentaires. Dans l'appartement, ils ont trouvé une paire de chaussures marron, qui qui semblait porter des traces de crime. Les officiers ont saisi ses vêtements et ses lunettes pour les conserver comme preuve. Ensuite, des menottes ont été mises à Joel et il a été emmené au poste dans une voiture de service. Les enquêteurs se préparaient pour une longue journée d'interrogatoire, mais la situation a évolué différemment. Esus a été le premier à être interrogé, qui n'a pas attendu la lecture de ses droits et a immédiatement fait un aveu imprudent. Il a raconté en détail ce qui était arrivé à Anna Maria et comment il pensait que l'histoire était également terminée pour Eddie. Esus a décrit le trajet en camionnette jusqu'à la plage isolée et les événements qui ont suivi. Il a mentionné que lui et ses amis s'étaient promis mutuellement de garder le silence sur ce qui s'était passé. Néanmoins, il n'a pas pu garder le silence sous la pression et a tout raconté. Esus semblait inquiet et troublé, car malgré son jeune âge, il avait déjà été impliqué dans des histoires similaires. La police soupçonnait que c'était précisément sa jeunesse qui expliquait son ouverture. Esus a également indiqué l'endroit où se trouvait Anna Maria. Les agents de la force publique se sont immédiatement rendus sur place et ont trouvé des confirmations de ses déclarations. Selon les rapports, Anna Maria a été retrouvée dans une position qui rappelait une prière, ce qui pourrait avoir été son dernier souhait avant le moment critique. Des traces superficielles ont également été trouvées, qui, selon la police, auraient pu être faites au moment clé. Lors de cette malheureuse soirée, quand l'événement troublant s'est produit pour la famille d'Anna Maria, tous les objets trouvés ont été envoyés au laboratoire forensique pour analyse nécessaire. Entre autres, la mère d'Anna a reconnu sa fille, ce qui l'a profondément bouleversée. Elle a raconté comment sa famille avait déménagé de la Colombie aux États-Unis, en quête de sécurité, qu'ils n'ont finalement pas trouvée. Les enquêtes ont montré qu'un terrible événement s'était produit ce soir-là avec Anna, dont les preuves comprenaient des traces d'ADN de plusieurs personnes, ce qui a été la clé de l'enquête. Tandis que la famille faisait ses adieux à Anna Maria, l'enquête continuait. Dans l'appartement de l'un des suspects, César, les enquêteurs ont trouvé des objets liés à l'incident, y compris un objet qui était crucial pour clarifier les événements. Entre-temps, le représentant de la police de Miami Beach, Bobby Hernandez, a informé les médias de l'arrestation de 5 personnes et a souligné que la famille d'Anna n'avait rien à voir avec ces personnes et se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Catherine Fernandez, le procureur du district de Miami, a assuré que toutes les ressources possibles seraient mobilisées pour garantir que les deux familles affectées obtiennent justice. Elle a confirmé que les meilleurs spécialistes étaient affectés à l'affaire, garantissant une enquête approfondie et un dénouement juste. Esus a été transféré à l'établissement pénitentiaire Metro-Ouest à Miami, où il était sous surveillance stricte. Il a tenté d'utiliser sa réputation dans les cercles criminels pour renforcer sa position parmi les autres détenus. Au début, Esus regrettait ses actes, mais avec le temps, il commença à parler ouvertement des détails de ses actions dans différentes parties de la prison, à la cantine, dans sa cellule, lors des entraînements et même lors de rencontres fortuites. À sa surprise, les autres détenus ne partageaient pas sa fierté pour ses actes. Même ceux considérés comme particulièrement dangereux désapprouvaient ses actions et exprimaient avec le temps leur mécontentement envers son comportement. En raison du mécontentement croissant parmi les détenus, les autorités décidèrent de transférer Esus dans un autre établissement. Là, il réfléchit à la manière de régler la situation avec Eddie, qui avait été témoin de l'incident et était prêt à témoigner contre Esus et ses amis. Esus cherchait un moyen de l'empêcher et de modifier l'issue de l'affaire. La situation s'aggrava lorsque la police apprit ses intentions et infiltra un enquêteur sous couverture. Esus proposa à l'enquêteur $12,000 pour régler le problème avec Eddie, mais le plan échoua et cette information fut enregistrée dans son dossier pénal. Lorsque toutes les preuves nécessaires au procès furent rassemblées, les 5 accusés déclarèrent leur innocence lors de la première audience. Hector prétendait qu'il avait été impliqué dans une situation organisée par César. Un appel téléphonique depuis la prison de Miami-Dade County révéla qu'Hector avait rencontré César 3 semaines avant les événements décrits. Gladys Lagarde, la compagne de 40 ans d'Hector, raconta qu'elle s'attendait que César apporte certains objets dans leur appartement le samedi après-midi, le jour de l'incident. Mais César est arrivé les mains vides et était très contrarié. Il expliqua qu'il était allé à Miami le vendredi, le 26 avril, pour faire des achats, mais qu'il avait été trompé. Déçu, il retourna en Floride centrale, où il rencontra les 4 autres impliqués pour discuter d'une solution possible au problème avec le prétendu escroc. La police confirma que tous les participants dans leur déclaration désignaient César comme l'organisateur principal. Le parquet rencontra un problème lorsque le seul témoin, Eddie, déclara qu'il ne pouvait pas identifier avec certitude aucun des auteurs. Il nota qu'il faisait sombre ce jour-là et que sa vision était affectée par de forts maux de tête. Eddie était choqué et avait du mal à se souvenir des visages. Malgré les suppositions de certains que les enquêteurs pourraient reculer, les preuves ADN et les déclarations d'autres accusés ont permis d'ouvrir la procédure et finalement de les condamner. Pendant le procès, la loi sur les infractions graves fut appliquée, selon laquelle chacun, impliqué dans l'acte, porte la même responsabilité que celui qui aurait prétendument organisé l'événement. Le procès contre 5 accusés devait commencer le 23 septembre 2002. Ils étaient accusés de plusieurs infractions graves, y compris la tentative d'un crime grave. Cependant, le début du procès fut reporté à la demande de l'avocat Robert Goodwin, qui demanda un procès séparé pour chaque accusé. Le procès s'est étiré sur des années, et ce n'est que 5 ans plus tard que Victor Korobalge, alors âgé de 39 ans, comparut devant le tribunal. Il prétendit avoir été seulement témoin de l'incident dans la camionnette et non activement impliqué. Victor a également assuré que l'ADN trouvé sur le lieu du crime était arrivé là par hasard. Son défenseur insista sur le fait que Korobalge n'avait pas pris part à l'incident et ne méritait donc pas la peine la plus sévère. Cependant, le jury en décida autrement, et en avril 2007, il fut jugé responsable et condamné à la peine maximale. En juin de la même année, il fut condamné à la peine maximale, plus 4 peines d'emprisonnement à perpétuité et 2 peines de 30 ans pour d'autres infractions. Ensuite, César Antonio Mena, âgé de 27 ans, comparut devant le tribunal. Le procureur adjoint demanda une peine similaire, citant les conséquences graves de l'incident pour Eddie et la famille d'Anna Maria. Après de longues discussions le 8 novembre 2007, le tribunal l'a trouvé innocent d'une des accusations, mais l'a condamné à la prison à vie. Quelques mois plus tard, en l'année 2008, ce fut le tour de Jesus. Il confirma avoir distrait le gardien, permettant aux 4 autres d'emmener un couple dans leur véhicule. Jesus observait ce qui se passait dans le véhicule et avoua que sa réaction avait été inappropriée. Il prétendit également avoir aidé à nettoyer le véhicule après l'incident. Durant le débat houleux du CEAS, le tribunal entendit Eddie, qui prétendit que l'accusé était l'une des seulement 2 personnes qu'il pouvait se rappeler parmi les présents cette nuit-là. Après avoir examiné toutes les preuves, le tribunal l'a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération anticipée. 4 ans plus tard, les affaires des 2 autres impliqués furent réexaminées, mais avant le procès contre Joël et Hector, il y eut un tournant inattendu. Le 24 juin 2010, la Cour suprême de Floride, en raison de violations techniques, annula la sentence originale contre Victor et ordonna une révision. Le procès contre Joël commença le 10 septembre 2012. Cependant, le juge déclara des violations de procédure dans l'examen de l'affaire. En septembre 2012, une nouvelle audience judiciaire a eu lieu, où la majorité des jurés, 9 voix contre 3, a déclaré Hector Manuel Carvalho coupable de l'incident et a proposé une peine sévère. En attente de la décision finale, qui devait tomber le 26 octobre de la même année, Hector a avoué sa culpabilité dans le cadre d'une accusation de second degré et a accepté une isolation de 50 ans. Il espérait une peine plus courte de 30 ans et a invoqué un malentendu de son interprète et avocat, mais le juge a rejeté ses arguments. Le procureur de Miami, Yates, a expliqué que l'aveu de culpabilité avait été accepté en raison de preuves relativement faibles contre Hector comparées aux autres impliqués dans l'incident. Avant que le tribunal ne rende une décision finale, la défense d'Hector a tenté d'obtenir une peine d'emprisonnement à vie plutôt que la mesure sévère. Cependant, le tribunal a confirmé la décision initiale et imposé 6 peines de prison à vie consécutive. L'audience s'est poursuivie en présence de la famille d'Anne-Marie, car chaque partie avait le droit de faire appel du jugement. En décembre 2017, la Cour suprême a annulé le jugement contre l'un des participants, Joël, et a ordonné un nouveau procès, en raison de désaccords parmi les jurés comme raison de cette décision. Par conséquent, l'affaire retourne périodiquement devant le tribunal, qui réexamine ses décisions de temps en temps.